Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron. Jérôme Rotten.
19h tout pile sur RMC, la dernière heure de Rotten sans flamme de la semaine. Et oui, on est là avec Manu Petit, avec Benoît Boutron, avec tous nos correspondants dans un instant. Oui, on va se lancer, prochaine journée de championnat de Ligue 1 qui commence ce soir avec ce fabuleux Montpellier-Nantes. Oui, si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les jours, c'est pas bien. Et si vous venez juste de nous rejoindre, attendez 20h et vous faites le podcast de la première heure parce que ça vaut le coup.
19h45, oui. Rotten contre le reste du monde. A gagné une semaine de vacances, la mer, la montagne ou la campagne, grâce à Lagrange Vacances. Vous aurez le choix entre des résidences 3 ou 4 étoiles. Pour vous inscrire, tentez votre chance. Top TOP au 732-16. Top au 732-16. À 19h30, le dernier épisode de notre feuilleton. La France a du talent, Jérôme. Le feuilleton autour des épopées européennes du PSG et de l'OM. Deux clubs qualifiés pour les demi cette saison. Ce soir, retour sur le parcours des Parisiens. Tu étais aux commentaires jusqu'à la finale de la Ligue des Champions en 2020. On sera en direct avec Abdou Diallo. Ouais,
mais j'étais avec le Black Cat.
Eh oui, t'étais avec le Black Cat, Jérôme Sion. Ouais,
donc, on pouvait pas gagner.
Finale.
On pouvait pas gagner, je le savais. Hein. Quand il a mis les pieds dans le stade, j'ai dit ouais, aïe, aïe.
Et puis tiens, autre cadeau. Ça a plu à Manu Petit. On est le 26 avril. C'est 2 fois 13. Ouais. C'est pas un vendredi 13, mais c'est un vendredi 26.
Ah, j'ai couru.
Tu sais, Manu, on a des génies hein, quand même hein, dans la rédaction des RMC. Bah oui. Pour nous inventer un jeu comme ça.
L'important, c'est qu'on fasse gagner des cadeaux.
Je vais écorcher son nom encore.
Greg Caranoni.
Caranoni.
Excellent.
Qui nous écoute très souvent.
Bien sûr.
Et je te dis, je te félicite vraiment parce que celui-là, il fallait l'inventer. Hein.
Donc, on peut remporter jusqu'à 26 000 euros. Voilà. Vous avez encore le temps de vous inscrire, il faut renvoyer chance. C-H-A-N-C-E au 732.
Je pense que ça va tomber là. Il n'est pas tombé, hein, le 26 000. Hein.
Il n'est pas tombé
26 000,
encore.
Il y a 13 000 aussi.
Exactement. Là, oh, il y a 5 minutes pour s'inscrire. Et là, entre vous, sera en direct.
Il n'y a plus beaucoup de petits papiers. Hein.
Ouais.
J'ai vu à l'éclairage, là, je sais que.
Ah, t'as commencé à regarder Tu vas pouvoir influencer comme ça.
Écoute, je vois pas ce qu'il y a, mais okay. Je sens les choses.
Bon, avant ça, messieurs, c'est la tradition du vendredi, le multi.
RMC, Rotten sans flamme.
Ah, Jérôme Rotten !
Oh, la patte gauche !
C'était Jérôme Rotten !
Ok, le patte gauche.
Il frappe quand même !
Il frappe pas !
Il va !
Il frappe quand même ! Et Bilou ! Oui, t'as dit Jérôme Rotten !
Mon Dieu. Allez, reprenez le volant. Hop,
Manu, c'est bientôt fini, il reste que 3 journées.
En sonnerie de portable.
Non, ouais,
c'est dingue. C'est tu sais que c'est dingue, hein, parce que là, le périph est juste derrière nous, hein, pour ceux qui connaissent la région parisienne et Paris. Ils klaxonnent tous à ce moment-là. C'est fantastique. Je fais des signes, là, ils me voient dans le studio, c'est fantastique.
Ah, c'est vrai, tiens.
Ouais.
Ah ouais. Bah, salut à tous. Hein,
Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est pour ça que ça ralentit, hein, qu'il y a les bouchons.
Ouais, c'est ça, bah, l'explication.
Oui, tu sais que la majorité des gens, ils pensent que t'es sérieux quand tu dis ça. Bah, je suis sérieux.
Allez, lançons la 31e journée avec nos correspondants. Julien Landry, la deuxième semaine consécutive en direct de Montpellier.
J'ai découvert Jérôme Rotten, imitateur la semaine dernière. Il est humoriste ce soir. Chaque semaine, j'en découvre.
Méfie-toi que la semaine prochaine, tu sois au placard.
Je serai plus là.
Salut Julien.
Bon. C'est ma dernière soirée. Et puis, je le sais.
Ouais, profite.
On a deux habitués, Xavier Grimaud à Rennes. Salut Xavier.
Xavier, c'est un habitué.
Évidemment.
Salut
Xavier.
Salut.
Bon, Edouard G à Lyon, il est toujours venu, Edouard, hein, malgré le classement.
Oui, il s'accroche, il est toujours là. La sensu, Edouard. Voilà. Salut, Edouard.
Une spéciale course à l'Europe ce soir, Ligue des Champions, salut, Ligue Europa notamment. Mais on parlera de maintien à 19h20, Montpellier-Nantes. Der Zakarian sans scrupule avec Nantes, club qu'il a entraîné, club dans lequel il a joué, il a débuté en carrière professionnelle. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y ait pas de scrupule pour Der Zakarian contre Nantes?
On en parle. Sûr, une prime.
Ah ben on réglera la question de la prime avec Julien Landry. On y va sur la course à l'Europe. Je rappelle rapidement le classement de la Ligue 1. Paris en tête avec 69 points. Paris peut être sacré champion dès demain soir. Paris reçoit le Havre. Monaco deuxième, 58 points. Brest troisième, 53 points. Lille 52 points. Nice 48 points. Lens 46 points. Rennes 42 points. Et donc dimanche soir, ce Lyon-Monaco, Edouard, 21h. Lyon 9e, à un point du Stade Rennais 7e. Monaco de son côté peut quasiment assurer la deuxième place et surtout la Ligue des Champions. Edouard, des Lyonnais qui veulent tout de suite réagir après la lourde défaite justement face à Paris le week-end dernier.
Oui, mais Benoît, on avait évoqué un petit peu ça, et puis moi je suis arrivé ce matin à la conférence de presse avec nos questions sur la course à l'Europe. Est-elle stoppée avec cette défaite la semaine dernière à Paris, le 4-1 qui casse la dynamique des 5 succès consécutifs à l'extérieur, la 7e place voire plus. Et ben Pierre Sage, lui, ben tout d'un coup, il s'est assis derrière les micros de la salle de presse avec une idée fixe et ses éléments de langage, car à ses yeux, on a oublié quelque chose au milieu de la semaine, messieurs. Événement qui est passé inaperçu, le maintien confirmé mathématiquement par la défaite de Lorient. Un détail pour vous, comme dit la chanson, mais pour lui, vous allez l'entendre, ça veut dire beaucoup. D'où sa formule du jour que je vous propose d'écouter, donc Pierre Sage.
En fait, je pense qu'on s'est embourgeoisé, très concrètement. Aujourd'hui, on est un peu victime du bon parcours qu'on a eu, dans le sens où l'exigence, les attentes sont énormes. Donc quelque part, c'est aussi assumé de notre côté. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé pour passer de la dernière place à la 14e journée, au fait d'être maintenu à 4 journées de la fin, c'est pas neutre. Notre club va sortir grandi de cette situation-là, puisqu'elle a marqué les esprits, et je pense qu'on a joué un peu avec la peur de tout le monde. Et quand on joue avec la peur de tout le monde, on doit se rappeler qu'il faut apprécier les choses simples, et une des choses simples, c'est d'apprécier le maintien à la hauteur de ce qu'il est. Si maintenant l'histoire est encore plus belle, tant mieux pour nous. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé ce mercredi avec une confirmation officielle de notre maintien en Ligue 1, à un moment donné, on peut presque l'associer à une montée de Ligue 2, parce qu'on était en Ligue 2.
Ouais, avec même
on parle de Lyon, on est d'accord.
Oui, oui. Okay.
Exactement.
Il est monté. J'ai cru qu'on parlait d'un autre club, en fait.
Mais en fait, parce qu'il estime qu'on n'a pas assez
mis en avant
insisté cette remontée, notamment depuis.
Non, mais on parle bien de Lyon, on est d'accord.
Oui, bien sûr, oui. Mais de Lyon qui était dernier après 14 journées avec 7 points et qui là est à un mois d'un trophée, 12 ans après la dernière Coupe de France, qui l'eût cru à la mi-décembre.
C'est vrai, est-ce qu'on apprécie comme ça la remontée de Lyon à sa juste valeur? Parce que nous, on les voit européens. Est-ce que finalement, il ne faut pas déjà saluer le travail qui a été fait et ce maintien qui est acquis après un début de saison catastrophique?
Il a raison.
Je ne savais pas que l'objectif de Lyon était le maintien.
Manu.
Là,
bien sûr, j'écoute. Et pourtant, on parle de Lyon. Et encore une fois, c'est ça que je me répète à chaque fois pour que vous compreniez bien.
Non, mais pourtant, j'ai
un des plus gros budgets de Ligue 1.
Oui, c'est vrai. C'était une anomalie. Et vu qu'ils travaillaient mal et qu'ils se sont trompés sur le profil des entraîneurs, plus les joueurs qui se foutaient de la gueule du monde. À l'arrivée, oui, ils ont flirté longtemps avec la Ligue 2. Mais moi, vous savez que Pierre Sage, c'est pas ma tasse de thé en termes de communication et tout ça. Mais là, je le comprends. Ce que je veux dire, c'est que il est arrivé, c'était catastrophique. Sinon, il serait jamais venu sur le banc de Lyon. Il est venu, ils étaient décrochés. Et même quand il est arrivé, et je parle sous le contrôle d'Edouard, mais je me souviens, il y a eu une série de défaites encore. Et ça s'arrangeait pas. Et puis après, il y a eu la.
Le mercato hivernal quand même.
Non, mais même avant le mercato, parce que je me souviens,
décembre.
En décembre avec moi j'étais à Monaco ce jour-là sur place Monaco Lyon. Et c'est vrai que ils ont la bonne étoile au-dessus de leur tête et Pierre Sage surtout sur ce match-là parce qu'ils font un match catastrophique, ils se font malmener. Je sais même pas s'ils frappent deux fois au but et ils arrivent à gagner le match 1-0 avec son coup les entrants qui font la différence.
Exactement.
Et c'est vrai que ça a créé une dynamique et les résultats derrière ont suivi. Il y a eu une petite piqûre de rappel au mois de janvier quand même, hein, tu vois, il y a eu un mauvais passage et puis derrière, ils ont très vite assuré le maintien. Donc ça, c'est une performance et ça, on ne peut pas lui retirer. Il a raison, si tu veux, de savourer le jour, parce que c'est quand même tôt, hein, d'où ils viennent. Moi, je me suis dit, et je le disais et j'assume, Lyon va jouer le maintien jusqu'à la dernière journée du championnat. Et là, on est à 4 journées de la fin, ils sont maintenus, tranquilles.
Mais Lyon vise l'Europe.
C'est la question qu'on peut se poser.
C'est quoi l'objectif de Lyon en championnat aujourd'hui, les gars? Lyon est 9e. Lyon a un point de retard sur le 7e Rennes.
L'objectif est
5 points de retard sur le 6e.
Lyon, on peut dire bravo pour être remonté comme ça. Maintenant, ils sont tellement limités par rapport aux équipes qui jouent, eux, la Coupe d'Europe. Et ça se voit en termes de résultats.
Arrêtez.
Ils ont gagné 4-3 contre contre Brest, ils se sont fait manger. Jamais ils doivent gagner le match. Et oui. Et après, ils vont jouer contre Lens. Ils en prennent comme au boule à domicile.
3-0.
Ouais, voilà. Ils sont allés où dernièrement là?
Bah, ils ont perdu au Parc.
Ils ont perdu au Parc. Bon. Après, perdre au Parc, voilà, c'est pas.
C'est ça. C'est...
Non,
ça
bon, ils en ont quand même pris 4. Ouais. Donc, il y a quand même, avec les meilleures équipes de championnat, il y a un problème de niveau aussi. Où ils jouent leur saison, Manu, c'est sur le match de Coupe de France.
Tu rates les quasiment les 4-5 premiers mois de la saison, même si tu te rattrapes juste avant les fêtes de Noël. Tu t'appelles Lyon. Et malgré tout, tu arrives en fin de saison et tu as peut-être une chance de jouer la Coupe d'Europe. Mais tu te rends compte? Tu te rends compte du niveau du championnat qu'on a?
Ça
veut dire que tu peux faire une demi-saison et espérer
ça
peut-être
suffit.
Être européen.
Ouais,
tu vois.
Bah, surtout, tu te dis, Lyon qui a complètement manqué son début de saison et à un point du Stade Rennais.
C'est pour ça.
Tu te rends compte?
Non, mais c'est vrai. C'est pour ça. Donc, j'en reviens à ce qu'a dit ça. Je peux comprendre son soulagement d'avoir été maintenu. Mais on parle quand même de Lyon, quoi. Pour quand même remettre l'église au centre du village. Et j'ai l'impression qu'en fait, il parle d'un club qui n'a pas fait ce qu'il a fait pendant les deux dernières décennies, en fait.
J'ai presque
envie de lui dire, mais quelque part, vous auriez presque mérité de descendre pour comprendre justement la leçon de toutes les conneries que vous avez faites depuis des années.
C'est vrai. Mais après, il parle surtout, là, dans le plaisir d'avoir maintenu le club, d'une mission commando, qu'on lui a filé. On lui a filé le bébé. C'était pas un cadeau, quand même, hein.
Ouais.
Tu vois. Et encore une fois, il y a Edouard qui est là et c'est bien de l'avoir parce que, rappelle-toi, Edouard, hein, tout ce qu'on a pu dire sur ce groupe, sur ce club, sur Textor, sur, Grosso, sur les joueurs qui avaient lâché l'entraîneur, un deuxième entraîneur.
Mathématiquement, personne n'avait fait ça, hein.
Que des joueurs étaient d'un niveau, mais minable. Ils avaient perdu la confiance. Même, les mecs qui étaient là depuis, qui ont été formés à Lyon, qui ont grandi à Lyon, comme Anthony Lopez et tout ça. Ils savaient plus où ils étaient. L'entraîneur, il le faisait plus jouer et c'était lui le responsable. Et puis quand c'était pas la Cazette, c'était Cherki. Quand c'était pas Cherki, c'était Tolisso. Mmh. Et quand c'était pas Tolisso, c'était Lovren derrière ou Lopez. Tu vois, le problème, c'est que là, c'était la Résina, donc ils étaient très malades. Là, ils se sont remis. Là où je te rejoins dans le discours, Manu, c'est que maintenant il faut enclencher autre chose. Qu'ils soient satisfaits du maintien, c'est une chose. Maintenant, il faut enclencher, redevenir un club, si tu veux, attractif, ambitieux, parce que tu t'appelles l'Olympique Lyonnais avec des moyens.
Qui va rester l'entraîneur l'année prochaine?
Ah bah Edouard.
Bah, s'il gagne, c'est comme Gasset, hein. S'il gagne la Coupe de France,
bon,
franchement, tu peux pas. Ah bah si.
Non.
S'il gagne la Coupe de France, tu peux pas le mettre dehors.
Tu gagnes la Coupe de France.
Oui. Mais de toute façon, si c'est le PSG qui gagne la Coupe de France, la 7e place sera européenne. Alors pas la compétition.
Non mais arrête avec
mais arrête, c'est une Coupe d'Europe. On parle compte avec la saison qu'ils ont
fait. La Conférence League, c'est fait pour Brest, pour ces équipes-là, ces équipes surprises.
Xavier,
c'est quoi, c'est la Coupe UEFA, non? C'est anciennement la Coupe UEFA.
La quoi? Non, elle n'existait pas, la Ligue Europa.
Non, la Conférence League, c'est comme la Coupe Intertoto. En gros, c'est la Coupe Intertoto que j'ai gagné avec mais la Conférence League, c'est pour ces équipes-là, des équipes surprises, il n'y a pas de problème. Quand tu me parles des gros budgets, Benoît, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Marseille qui joue la Conférence League ou Lyon qui joue la Conférence League, on n'en a rien à carrer.
Alors, je te pose
ils
ne doivent autrement.
Pas faire leur saison en fonction
et
de la Conférence League.
Je te pose la question autrement. Tu préfères voir Marseille sortir ou Lyon en quart de finale de Ligue Europa ou un de ces deux clubs aller en finale et peut-être gagner la Ligue Europa Conférence?
Mais t'as vu les clubs. Alors, il faut respecter parce que nous, on ne peut pas donner de leçons sur
ça,
la scène européenne.
Mais c'est ça, en fait. Comment tu peux dire ça avec ce que nous on fait en
Conférence League, les premiers tours de la Conférence League, on a vu avec Lille, hein.
Oui.
Et Lille.
Non, mais
arrête.
On va faire la fine douche quand même, hein. On n'a pas ce luxe-là.
Non, mais d'accord. Mais bon, la Conférence League n'est pas faite pour la dimension de Lyon ou de Marseille. Je suis désolé. Donc, tu ne dois pas faire ta saison, ton recrutement en fonction de la Conférence League ou pas. Par contre, tu fais en fonction d'avoir des gros budgets. Donc, si tu as des gros budgets, tu dois mieux recruter et surtout avoir un vrai chef d'orchestre à la tête de ces clubs-là. Et c'est pour ça que je te dis que Jean-Louis Gasset, comme ça, s'ils gagnent un trophée cette année, ils ont eu, pour moi, les dirigeants doivent réfléchir différemment en disant, ils ont gagné un trophée, ils ont le droit de continuer s'ils veulent. Par contre, s'ils gagnent pas le trophée, je pense que Sage a fait du très bon boulot et moi c'est pas sur ses compétences. Il y a trop d'incertitudes sur le fait qu'il emmène Lyon tout là-haut parce que il y a aucune.
Tu peux pas dire à Pierre Sage tu t'en vas là, c'est pas possible.
Mais pourquoi?
Mais parce que il a pris le club, ils étaient à l'agonie.
Mais, 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 mais,
c'est incomparable.
Mais il y a 5 mois, Benoît, personne ne le connaissait, il est au centre de formation. Arrêtez avec ça. C'est pas parce que il a gagné quelques matchs de Ligue 1 que ça y est, c'est un génie.
Benoît, c'est Franquès, personne ne le connaissait.
Bah oui, mais Franquès, il était au début d'un projet et il était à Lens, les gars.
Arrêtez le bricolage.
À Lens, c'est pas Lyon.
On parle de Lyon et de Marseille. Je comprends pas le bricolage au niveau sur le banc.
Mais parce que c'est pas la même pression. Franquès, quand il prend Lens.
Mais c'est pas la même mission, surtout.
Franquès, quand il prend Lens, il monte, il gagne un trophée, non? Ou c'est pareil.
Non, c'est pareil.
Il monte deux.
Franquès, il fait deux matchs, le championnat
arrêté pour
Covid et il monte. Bah oui, parce qu'ils sont leaders du championnat.
Et
bien
alors, peu importe. Donc tu changes pas, tu perturbes pas tout. Ils avaient pas les mêmes moyens que Lyon. Lyon a les moyens d'attirer un grand entraîneur et d'attirer des grands joueurs. Je suis désolé, comme l'Olympique de Marseille. Ils ont l'enveloppe pour ça, les gars. Donc, un entraîneur novice.
Ce serait terrible de dire à Sage, tu t'arrêtes.
Mais c'est pas terrible. Il peut continuer à apprendre son métier.
Edouard, on a des infos.
Mais Sage, il a mon âge, les gars. Il a pas 70 ans, l'âge de Gasset. Il peut juste avoir fait une mission et tant mieux s'il fait cette mission-là sans gagner la Coupe de France encore une fois. Derrière, repartir, apprendre son métier au centre de formation ou même en tant qu'adjoint à Lyon. Bon. Et puis après, mais oui, je suis désolé. Mais c'est prendre trop de risques, à mon sens, de laisser les clés du camion à Pierre Sage l'année prochaine et dire à Pierre Sage, tu dois finir dans les trois, parce que ça sera l'objectif de Lyon.
Plus élevé de dire à Gasset, tu continues, qu'à Sage, tu continues. C'est incomparable. Justement, tu parlais de contexte, de pression, etc.
Par contre, j'aurais pas le même discours sur Pierre Sage s'il emmène un titre que Lyon attend depuis plus de 10 ans.
Sur un match, en fait, ça a pas de logique.
Mais
pas raisonner comme ça.
Et pourquoi?
Parce que, t'imagines le match qui va à une séance de tir au but, et du coup, le gars, il joue sa carrière sur une séance de tir au but.
Écoute, football. Hein, enfin, tu sais, des fois, ça se joue à peu de choses. Ça s'est joué à peu de choses que Persage se retrouve entraîneur de Lyon. Au début de saison, quand ils ont pris Grosso, tu crois qu'ils pensaient une seule seconde à appeler Persage au centre de formation? Donc ça s'est joué à peu de choses parce que Grosso, il a fait n'importe quoi. Il s'est mis tout le monde à dos. Ils ont pris Persage. Bon. Persage, moi, j'attends. Là, ceux qui vont me détruire sur les réseaux sociaux en disant tu rencontres.
Non, mais ça sera mérité. Là, je vous
mais comment? Et on va pas juger un entraîneur, dire c'est un grand entraîneur parce qu'il a fait 4 bons mois à Lyon. Les gars,
arrêtez, ce serait terrible.
Et les matchs on les voit, son travail. Encore une fois, je ne minimise pas le fait qu'il est sorti de la mouise, cette équipe lyonnaise, et c'était pas gagné, et que le groupe de joueurs aujourd'hui ressemble enfin à quelque chose, et qu'ils ont un bon état d'esprit. Mais après, à côté de ça, tactiquement, il n'y a pas des matchs exceptionnels qu'il nous a fait, Pierre Sage, quand même.
Tu sais ce qu'on fait, Jérôme? On laisse Edouard bosser sur le sujet Pierre Sage.
Ouais.
Et on
je reviens
dès que je peux. On va vers celui qui a pris 2 taquets, donc en 3 minutes. L'ami Xavier Grimaud, qui a un sacré duel pour l'Europe. Brest 3e contre Rennes 7e. Derby breton ce week-end. Des Brestois qui restent sur 2 défaites, qui sont sous la menace de Lille 4e dans la course à la Ligue des Champions. C'est la suprématie régionale qui joue, là, Xavier.
Oui, c'est ça, et c'est un match qui est assez difficile à pronostiquer parce qu'il y a d'un côté une équipe de Rennes qui est illisible depuis un mois avec très peu de matchs convaincants. Il y a eu 3 défaites de suite avant la victoire à Nantes, alors 3-0 le week-end dernier. Le score quand même, il est un peu boursouflé, et puis Nantes surtout était très très faible. Et puis Brest, tu l'as dit, ils viennent d'enchaîner 2 défaites de suite. Les Brestois, ça ne leur était pas arrivé depuis octobre, novembre. On a l'impression que ça se crispe un petit peu à l'approche de la fin de saison. À Rennes, Julien Stéphan, il se montre lui-même un peu dubitatif sur le visage de son équipe d'un match à l'autre. Il s'attend en tout cas à un gros défi, évidemment, parce que les Brestois, c'est beaucoup de duels de projection. Et puis collectivement, ils font une superbe saison. Mais Rennes, qui est quand même à 11 points de son voisin, c'est à 4 journées de la fin. C'est une anomalie, clairement, c'est une anomalie. Ouais. Normalement, c'est Rennes, le gros club de la région. Du côté de Brest, on a essayé cette semaine de faire baisser la pression, la nervosité de la semaine dernière pour se recentrer sur leurs forces, sans penser à l'arbitrage, évidemment, aux critiques, comme les tiennes, Jérôme, cette semaine, sur leur future potentielle place en Ligue des Champions. Être au niveau aussi d'un gros match, contrairement à celui face à Monaco le week-end dernier, où Brest avait été logiquement dominé. Il y a des retours primordiaux, les cadres, Lesmelou, Brassier qui seront là. Mais reste les chiffres. Brest est la victime préférée de Rennes avec 14 matchs sans défaite, série en cours pour le Stade Rennais. Alors qui est favori, Jérôme, Manu?
Je partirais
sur un petit 60-40 pour les Rennais.
Bravo. Non, moi je mise sur les Brestois.
Favori, Brest?
Je mise sur les Brestois parce que je pense que comme les Rennais, ils montent tellement de visages différents, souvent même dans un même match. Les Brestois, même s'ils viennent de perdre 2 fois consécutivement, ils récupèrent des joueurs importants. Et je pense que mentalement, moi, même en termes de jeu, je les trouve meilleurs que les Rennais.
Ok, tu vois, Xavier, bravo, c'était un bon débat. Jérôme, c'est qui le favori?
Écoute,
ça va pas être Brest avec Jérôme.
Non, mais non, mais Xavier, arrête parce que arrête
en Ligue 2 selon Jérôme.
Non, mais arrête parce que franchement, vous avez pas compris mon avis.
Si, vous avez fait pour la Ligue Europa Conférence et compagnie.
En aucun cas, je minimise le travail des joueurs qui est remarquable avec le staff. Franchement, faire la saison qu'ils font et où je te dis que j'adore cette équipe, c'est je vois que sur les gros matchs, et là, je suis assez d'accord avec Manu. Le match à Lyon, qu'ils perdent 4-3, c'est contre le cours du jeu. Bah. Moi, ils font une prestation, franchement, solide. Alors, bien sûr, l'adversaire est pas le meilleur adversaire de Ligue 1, on vient d'en parler. Mais n'empêche que à Lyon, dans ce stade-là, il faut le faire. Et tu sens qu'ils prennent de l'expérience, ils ont de la confiance. Alors malgré tout, il y a de l'énervement, de la frustration parce que en effet, ils sentent qu'il y a des choses qui sont en train
de s'échapper. Depuis le passage des gars de l'UEFA qui vont.
Oui, oui, mais bizarrement. Et c'est pour tout ça.
Prise de conscience.
C'est pour tout ça que je te dis que là, ils se posent tellement de questions, la frustration, tout ça. Peut-être que en effet, ça va être difficile contre Rennes le dimanche, parce que Rennes est typique l'équipe qui à domicile, contrairement à ce que dit Manu, je trouve qu'ils peuvent se sublimer. Et vu que c'est un derby.
Ouais. Je les ai vus aussi passer à travers
domicile. Oui, c'est vrai. Mais souvent, je parle sous le contrôle de Xavier, sur les gros matchs où ils sont attendus, les Rennais, en général, ils déçoivent pas. Ils déçoivent contre des équipes où ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Et dernièrement, on l'a vu, le match à Strasbourg qui a été catastrophique. Il y a eu un match à Reims aussi qui était pas bon.
Ils sont assurés de Toulouse,
t'as raison.
Brest est assuré d'être européen.
En cas de nul, Brest est assuré.
Brest, ils vont faire la Coupe d'Europe.
Surtout sur Rennes, elle est pas sur Brest.
Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que à l'arrivée, Brest, quand tu, même s'ils ont essayé d'évacuer
c'est
ça,
c'est plus planifié dans un club comme Brest, comme Rennes, de jouer la Coupe d'Europe que
au
Brest.
Au départ, oui, mais là, vu la saison qui vient de se passer.
Manu, quand tu passes deux mois, trois mois,
ils vont gagner.
Quand tu passes deux mois, trois mois, deuxième du championnat et que tu vois les équipes te passer devant, prendre de l'avance, le deuxième Monaco, Lille, maintenant attention, il y a une équipe comme Nice qui peut revenir sur Brest. Bah, tu te mets, non mais c'est vrai, tu te méfies.
Avec un nul, ils sont assurés d'être européens,
oui,
c'est ça.
Oui.
Donc voilà,
on est d'accord.
Non, mais attention, début de saison, assuré qu'il arrive, ça sera une superbe saison.
Non,
pour
mais
eux.
Bien oui, sûr. Et de toute façon, ils sont plus, si tu veux, dimensionnés pour jouer l'Europa League, voire la Conference League, que la Ligue des Champions. Parce que imagine Brest qui finit quatrième, donc au tour préliminaire, sachant qu'avec l'effectif de Lille, l'effectif de Monaco, l'effectif de Lyon, de Marseille, on n'arrive pas à passer le cap des tours préliminaires. Comment Brest va réussir sans stade en plus, sans stade.
Là on a parlé.
Même s'ils jouent l'Europa League, enfin la Conference League, ils sont obligés de rénover leur stade.
C'est
5000. Donc faut trouver un stade de substitution ou alors rester à domicile.
D'ailleurs, il y a eu un communiqué du club et de la mairie aujourd'hui en disant qu'ils n'envisageaient absolument pas de jouer ailleurs, limite en disant c'est Brest ou rien. Et ils vont envoyer des éléments vidéo, rapport d'architecte pour faire la pression sur le UEFA pour dire que les tubulaires c'est solide. Le maire de Brest a dit dans ce cas-là, je mets en danger à chaque fois qu'il y a un match.
La
sécurité, c'est
une fausse excuse. Ils sont démontables, voilà. C'est ça, l'UEFA est contre cette idée.
L'UEFA pour les faire plier, on connaît la chanson, c'est quand même compliqué.
Mais c'est là, je suis désolé. T'as raison, Xavier, pour les faire plier, mais c'est là que nos instances, elles doivent être plus fortes. Je suis désolé, Brest.
Enfin, si c'est une règle UEFA, qu'est-ce que tu veux que l'instance fasse?
Mais la LFP pourrait dire.
Arrêtez, mais bien sûr, tu dois soutenir. Aujourd'hui, tu me dis les instances, mais arrête. On a Nasser El Khelaifi, il n'est pas proche du patron de l'UEFA? Très, très proche. C'est limite, c'est lui le patron.
Il est plus proche du patron de l'UEFA que des Brestois, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais. Moi, bon, ça, c'est pas faux ce que tu dis, Manu. Mais sauf que, à l'arrivée, pour défendre le football français,
s'il vous plaît,
peut-être que ça peut passer par
Est-ce
là.
Est-ce qu'on peut laisser un peu de place à la course au maintien à Julien Landry, s'il vous plaît? Il lui reste.
Monaco, je veux savoir si Golovin est de retour.
Non, il est blessé.
J'ai tremblé la semaine dernière. Non. Ça m'avait fait trembler, les gars.
Désolé, on parle de maintien avec Julien. C'est son quotidien. Montpellier-Nantes ce soir. Faut. Et on veut le fin mot de l'histoire sur l'histoire de la prime, monsieur Landry.
Ah oui.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va tripler la prime à Montpellier si on bat Nantes? Comment ça se passe? Quelle est cette histoire?
Et elle est à combien la prime d'ailleurs?
C'est une énorme bêtise. En tout cas, c'est pas Michel Derzakarian qui décide si la prime sera triplée ou pas ce soir. C'est bien Laurent Nicolin qui a les cordons de la bourse. Oui, c'est une info qui est sortie par nos confrères de l'équipe cette semaine, comme quoi Michel Derzakarian avait refusé la double prime au soir de la victoire à Reims parce
parce que il voulait absolument offrir la triple prime ce soir en cas de victoire contre Nantes, parce qu'on sait l'animosité que peut avoir Michel Dazakarian, non pas contre Nantes, ça, club qu'il adore absolument, mais contre les Kita, Valdemar et Franck. On se rappelle que Valdemar Kita avait traité Michel Dazakarian de deux chevaux quand il avait comparé avec Ranieri, mais Michel Dazakarian a déclaré cette semaine que c'était une énorme bêtise, qu'il avait beaucoup de respect pour Nantes, que c'était son club là où il avait appris le football, qu'il respectait, mais que ce qu'il souhaitait absolument, c'était s'imposer ce soir pour valider le maintien, et que derrière, si Laurent Nicolin voulait doubler et tripler la prime, c'était le président qui décidait et non pas Michel Dazakarian, qui fera tout ce soir, en tout cas je vous l'affirme, pour battre Nantes, parce qu'en 2021, il avait envoyé Nantes en barrage, il n'a aucun scrupule vis-à-vis de ça, il aime Nantes, mais ce qu'il préfère aujourd'hui par-dessus tout, c'est s'imposer avec Montpellier et assurer définitivement le maintien. Donc non, Michel Dazakarian n'est pas le maître de cordon de la bourse, et c'est pas lui qui décide s'il y a double, triple, quadruple ou quintuple prime.
Voilà, en revanche, il est extrêmement motivé pour aller valider le maintien de Montpellier face à Nantes, qui est en danger, qui est son club de cœur. Est-ce que vous comprenez ça, qu'il n'y ait pas de scrupules pour Dazakarian face à Nantes?
Heureusement encore. Heureusement qu'il n'y a pas de scrupules.
On en revient en fait au même débat que tout à l'heure, Habib Bey, qui peut pas.
Ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire parce que t'es passé dans un club, donc tu peux pas.
Tu peux avoir de l'affection pour Nantes et pas avoir envie de voir le club descendre. Non, tu peux avoir de la classe. D'accord, mais la classe, ça s'achète pas. Après, peu importe, Dazakarian, s'il réagit comme ça, c'est qu'il y a certainement, et on le sait, un peu trop d'animosité avec les dirigeants et le président Kita. Voilà. Après, Montpellier aussi, hein. Et Montpellier, c'est comme Lyon. Parce que, alors, c'est différent, hein, parce que c'est pas la même stratégie en début de saison, les mêmes ambitions.
Ils sont en train de construire un nouveau stade, là.
Mais Montpellier.
Pas encore. C'est un projet, mais c'est loin.
C'est un projet. Montpellier, ils ont passé par des heures très, très compliquées. Ils ont flippé. Et là, ils sortent la tête de l'eau. Bon, bah, écoute, Dazakarian, il a envie de se faire plaisir contre Nantes. Bon. Il a le droit, hein.
C'est le début de cette 31e journée, okay, ce soir 21h, Montpellier-Nantes, avec Julien Landry. Merci Julien, merci Xavier, merci Edouard. On vous retrouve la semaine prochaine.
Salut les gars.
À l'année prochaine, je pense.
À la saison prochaine. Au moins, tu seras en Liga, donc tu reviendras.
C'est ça, déjà.
Exactement.
On vous embrasse, les gars. Je vous aime, les gars.
Dans un instant, la suite de notre feuilleton. La France a du talent. Jérôme, on sera avec Abdou Diallo pour revenir sur l'épopée parisienne en 2020 et cette finale, la seule de l'histoire du PSG, finale de l'équipe. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h28 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On finit l'émission, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme, avec un bon ring des supporters, avec nos épisodes sur les finales et les épopées de Marseille et de Paris. On va recevoir Monsieur Diallo.
Abdou Diallo qui sera avec nous.
Il sera là, c'est un des footballeurs les plus intelligents. Donc il est brillant, donc je vous conseille d'être là dans quelques secondes. On est avec Manu Petit. On est avec Benoît Boutron, bien sûr, et on sera avec Julien Cazard à partir de 19h45, voilà, avec son quiz.
Rotten contre le reste du monde, t'as été bon cette semaine ?
Oui, il me semble.
Tu peux gagner la semaine ? On fera le point avec Jérôme.
Sans la triche, j'aurais gagné. Oh,
une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou la campagne, grâce à Lagrange Vacances, à gagner. Vous envoyez top au 7-32-16. Manu Petit sera renforcé par la présence de Nico Villain.
Il sera là.
Une équipe redoutable face à toi. Mais avant, Jérôme, tu l'as dit, on se replonge dans l'épopée parisienne de 2020, l'unique finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain.
Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau. Et
but de Boli. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions.
RMC.
J'avoue que je pensais que ce serait beau, mais pas comme ça quand même.
Marseille et le PSG en demi-finale de Coupe d'Europe.
C'est parti, allez.
Oh oui, oh,
quel but.
Oh, quel but.
But de Bruno Nkoti. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes.
La France a du talent.
Saison 2019-2020, année rendue particulière par la pandémie de Covid-19, le PSG, entraîné par Thomas Tuchel, réalise la meilleure campagne de Ligue des Champions de son histoire au terme d'un Final 8 inédit organisé à Lisbonne en plein mois d'août. Paris sortira l'Atalanta en quart, but de Choupo-Moting dans le temps additionnel, souvenez-vous. Sortira ensuite Leipzig en demi, 3-0, les deux fois en match sec, et la finale frustrante sera perdue 1-0 face au Bayern Munich, un but d'un titi parisien, Kingsley Coman. On en parle, Jérôme, ce soir avec Abdou Diallo, qui est l'invité de Rotten sans flamme.
Salut Abdou.
Salut à tous, comment ça va?
Salut à tous. Bah écoute, on est en pleine forme. On est en pleine forme. On se refait les petites épopées Paris-Marseille. Donc merci beaucoup d'être là avec nous. Pour est-ce que ça se passe bien le Qatar déjà?
Ça se passe plutôt bien. Là, pour tout te dire, je sors de ma séance haut du corps. J'ai les bras un peu tétanisés, mais. Mais sinon, ça va. On a déjà gagné un titre, donc on est bien.
Bon, bah, tu es dans le même club que Marco Verratti. Tu l'embrasseras de ma part. Je crois qu'il m'adore.
Ou je l'embrasserai de ta part. Mais ouais, il y a Verratti, il y a Rafinha. Ouais. Donc il y a une petite colonie d'anciens parisiens, c'est cool.
Bon, tant mieux.
Abdou, si on revient donc sur cette saison 2019-2020 du Paris Saint-Germain, l'unique finale de Ligue des Champions, revenons surtout sur ce format inédit. Souvenez-vous, donc c'était au mois d'août. Vous aviez éliminé le Borussia Dortmund en huitième de finale. Ensuite, la pandémie est arrivée. Vous vous retrouvez dans ce Final 8 à Lisbonne avec des matchs secs à disputer tous les 3 ou 4 jours. D'abord l'Atalanta, puis ensuite de Leipzig. Est-ce que déjà dans l'approche des matchs, ça a changé quelque chose pour vous à l'époque, ce format un peu Coupe du Monde, Euro, voire Coupe d'Afrique?
Ah, ça a changé tout. Pour tout te dire, c'est mon meilleur souvenir, je pense, avec le PSG, parce que c'était un format tournoi comme on les connaissait quand on était petit. C'est-à-dire, tu vas, tu voyages, tu es dans un même endroit avec tes potes, et tous les 2-3 jours, match. Tu gagnes, tu restes. Super, bye bye. Donc c'était intense. Et au final, on va jusqu'en finale, même si on la gagne pas, mais c'était une expérience incroyable.
Quel souvenir tu gardes, toi, Jérôme? Parce que t'étais au commentaire de tous ces matchs. En plus, toi, le supporter parisien, t'as vibré avec cette épopée, quoi.
Oui, parce que la période, de toute façon, Abdou, il va pas dire le contraire. La période était très très compliquée. Et c'est vrai que s'il y avait quelque chose qui nous permettait de retrouver un peu le moral, c'était le football. Alors même s'il n'y avait pas de public, ça reste un moment génial et c'était incroyable de vivre ça, moi, au commentaire, en tant qu'amoureux du Paris Saint-Germain. J'ai tout fait dans ce club, du moins tout fait. J'ai été supporter tout gamin. J'ai eu la chance de jouer dans ce club, de gagner des titres avec ce club. Là, de me retrouver commenter la première finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Oui, c'était un moment fantastique, même sans public. Le regret, il est là. Le regret, c'est juste, bon, outre la défaite du Paris Saint-Germain, mais le regret, c'est de pas avoir communié ça avec les supporters du PSG, parce que t'imagines les emmener là-bas en finale d'une Ligue des Champions, là tu retournes tout Paris, quoi.
C'est ça, c'était au Portugal, donc à Lisbonne.
Ouais.
Abdou, revenons sur ce parcours. Est-ce que déjà globalement vous sentiez que c'était peut-être la bonne année pour gagner? Tu as joué 4 ans au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est l'équipe la plus forte dans laquelle tu as évolué déjà, cette équipe-là?
Alors, l'équipe la plus forte, peut-être pas. Par contre, l'équipe la plus soudée, ça, à coup sûr. Il y avait un état d'esprit incroyable. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient été blessés durant la saison, dont moi. Donc, il y avait beaucoup de joueurs en mission. Il y avait même des joueurs comme Thiago Silva qui étaient même plus sous contrat,
qui étaient venus jouer. Exactement.
Donc, il y avait un contexte vraiment inédit. On n'avait jamais connu ça dans nos carrières. Et franchement, on était une équipe tellement imprévisible que sur un match, on pouvait battre n'importe qui. Donc, on sentait que c'était notre moment, c'était notre année, et que c'était la bonne occasion en fait pour le faire. Retourner tout Paris, tout le monde est chez soi, tout le monde a besoin de respirer. Et comme on dit, le foot, c'est l'opium du peuple. Je crois qu'on était tous des drogués, hein.
C'est vrai que
et franchement, c'était incroyable.
C'est vrai qu'Abdou, moi, les souvenirs que j'ai aux commentaires, déjà, va regarder tout au long de la saison, parce que on les a vus, les matchs, sans les commenter forcément. Mais il y avait tu parles des retours de blessures et tout ça, mais il y avait quand même Neymar qui avait été énorme, mis à part la finale, mais il a été sensationnel, quoi.
Ouais. C'était un extraterrestre. Il jouait à gauche, il jouait dans l'axe. À un moment donné, il s'est retrouvé seul en pointe. On avait une tactique. En plus, Thomas Tuchel, il aimait bien les expériences.
Ouais.
On avait une tactique sur les dégagements de Navas, machin. Il jouait en appui. Les petits ponts, les highlights, c'était un récital. Et puis derrière, en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait 10 mecs. Allez, 10 et demi. On avait d'autres joueurs qui brillaient énormément, mais qui se mettaient au service de cette individualité, et que c'était un peu la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, il était tellement consistant, tellement en mission et tellement prêt à se sacrifier. ben que finalement la mayonnaise elle a pris direct quoi.
Mais Abdoul, moi c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois ceux qui jugent le passage de Neymar comme un échec au Paris Saint-Germain, moi ça me révolte parce que on oublie les bonnes saisons qu'il a pu faire surtout au début et quand je le vois à ce niveau-là sur cette période Covid et donc cette finale atteindre jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, quand je vois comment ça s'est
fini, terminé.
Comment au fur et à mesure clairement. Des années, en fait, il a perdu cette exigence-là.
Exigence.
Ouais. Comment tu l'expliques? Parce que je trouve que même
exigence
physiquement,
et Neymar, ça va pas dans la même phrase.
Bah si, parce qu'il était. Abdou, tu l'as vu tous les jours. Franchement, alors je te demande pas de dévoiler tous les secrets, mais physiquement, je le trouvais extrêmement affûté jusqu'à cette finale et après, oui. Après ça a capoté.
Bon, personnellement, j'aime pas trop. Je suis pas trop langue de bois. Donc, moi, ce que je pense, c'est que déjà, l'exigence à son arrivée, elle est énorme. Elle est trop grande, peut-être même pour un seul joueur. On a l'impression qu'il va tout faire tout seul.
Ouais.
Ensuite, ce qu'on peut à la limite lui reprocher, c'est certaines de ses absences. Dans le sens où dans des moments clés des saisons, même s'il contrôle pas tout, puisqu'il y a aussi les blessures, il a été absent pendant plusieurs années. Donc ça, je pense que c'est la première des choses. Néanmoins, en termes de statistiques, en termes d'apport dans le jeu, en termes de personnalité et en termes de spectacle et d'émotions transmises, on peut pas parler d'échec. Je sais pas si on a eu un joueur plus excitant que lui en France dans toute notre histoire en vrai.
Parce que à ce moment-là, cette équipe du Paris Saint-Germain, le leader technique et le leader d'attaque du PSG, c'est Neymar. Messi n'est pas encore arrivé. Oui, Mbappé clairement. Est là, mais le leader, c'est clairement Neymar et Mbappé est à son service.
Oui. Bah, après, Mbappé, il brille aussi de par son talent et c'est normal. Mais à ce moment précis, c'est la compétition de Neymar sans aucun doute. Sans aucun doute, il a écœuré tous les adversaires et nous, il nous a régalé. Il était animé par cette chose-là. Mais il y a beaucoup de joueurs de talent, si vous regardez, qui sont des joueurs qui se transcendent en tournoi. Je vois un petit peu la même chose avec un Paul Pogba, par exemple, en équipe de France. Dès qu'on parle de tournoi, tout de suite, il y a le déclic et on tire le meilleur de lui-même. Et donc là, c'était l'occasion parfaite pour Neymar. Après, comment ça s'est fini? J'ai envie de te dire, son documentaire, il parle de chaos. C'est un joueur qui est comme ça, qui performe dans le chaos, qui a besoin de cette dualité. Malheureusement, là, ça s'est traduit avec une grosse partie des supporters, etc. Et les images ne sont pas belles. Mais bon, je pense qu'il faut aussi regarder tout le positif qui a été.
Parce que Abdou, à l'arrivée, tu nous parles de cette période-là qui est certainement en termes de collectif. L'équipe qui était la plus proche déjà de la victoire finale, mais pour atteindre la finale, c'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il y avait un état d'esprit digne de ce nom. Et pourtant, on a souvent reproché au PSG, il y a trop de stars dans le vestiaire, et il y en avait des stars. Hein. Il y a trop de stars dans le vestiaire, ils peuvent pas tirer tous dans le même sens, les égos vont prendre le dessus. Et là, tu es en train de nous expliquer donc qu'à cette période-là, les égos, vous les avez mis de côté parce que tout le monde tirait dans le même sens.
Ouais, c'est ça. Et puis moi, à titre personnel, par exemple, je suis lucide. Je sais qui est capable de nous faire la différence.
Mais oui.
Et je sais aussi ce que représente le fait de gagner un titre dans la capitale. Je suis né en France. Et oui. Je sais ce que c'est. Donc si je peux avoir un titre en me mettant au service d'un mec hyper talentueux qui va me faire gagner, il y a pas de souci. Derrière, Paris est à moi. Donc je suis content.
Abdou Diallo qui est en direct avec nous ce soir, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. On revient sur les épopées européennes cette semaine de Marseille et du PSG. Ce soir, c'est le PSG version 2019-2020 avec ce Final 8. Cette finale face au Bayern Munich, on est obligé d'y revenir, Abdou, parce que c'est forcément un traumatisme pour tous les supporters parisiens. Première finale de Ligue des Champions. Une défaite 1-0, but de Coman. On a encore regardé les images aujourd'hui. Résultat très frustrant parce que Paris a eu les occasions et ensuite, en plus, Paris se fait crucifier par un titi parisien. Quel souvenir, justement, tu gardes de cette finale et peut-être de l'après, du vestiaire, de la déception? Tu parlais de Neymar qui était en mission. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, justement, juste après le coup de sifflet final?
Déjà, quand on arrive pour la finale, on sait qu'on a un très très gros Bayern en face de nous. Mais par contre, il n'y a pas un seul doute. Il n'y a pas un joueur qui doute sur le fait qu'on va la prendre, qu'on va rentrer à Paris en héros. Et en fait, on commence le match. Le Bayern est super en place, mais on a ces occasions-là nous permettraient de plier le match, en fait. De plier le match. Finalement, on ne les met pas. Et derrière, on tombe sur une équipe qui, je pense, sur la globalité du match, a été légèrement supérieure à nous. Donc, il y a la déception de ne pas les avoir surpris. Et ensuite, il y avait juste à tenir. Mais après, quand j'ai re-regardé le match une fois, deux fois, trois fois, bon, ils ont aussi mérité la victoire.
Ouais, ouais.
Nous, c'était un grand pas aussi, nous, dans notre histoire en tant que club, d'atteindre cette finale, parce que c'est le meilleur résultat de l'histoire du club. Mais c'est vrai que tu te dis, ouais, si on en met une, c'est pas le même match et c'est pas la même histoire à la fin, quoi.
Est-ce que ça a cassé quelque chose? C'était la fin de l'aventure pour un joueur comme Thiago Silva. C'est une page qui se tournait. Ensuite, il y a eu des saisons plus compliquées. Toi, c'est particulier. C'était ta première saison au Paris Saint-Germain. Est-ce que cette finale a laissé plus de traces qu'on pouvait le penser à l'époque?
Honnêtement, je pense pas du tout, du tout, du tout. Alors oui, il y a le départ de Thiago qui est un monument et à qui il faut rendre hommage. Mais néanmoins, derrière, il y avait une ossature qui était là et qui tenait bon. La preuve, on va en demi-finale l'année d'après, qui était le deuxième meilleur résultat de l'histoire du club. Donc je pense que la bascule ne se fait pas après cette finale. Elle se fait plutôt le mercato après la demi-finale.
Et juste si on peut se projeter un peu.
Moi, j'ai une question à vous sur le. Là, on parlait de Thiago Silva qui était en fin de contrat. On se rappelle aussi de Cavani.
Ouais.
Il n'avait pas voulu le faire.
Bien sûr,
le truc.
Ouais. Ça Cavani, a été... Meunier.
C'est fou quand même. Ouais. C'est fou quand même que même parce que le regret, il peut être aussi là. Tu te dis, en effet, le Bayern en finale. Et je suis assez d'accord avec toi. Ils avaient fait quand même un bon match. Ils l'ont pas volé cette victoire. Mais n'empêche que. Si tu rajoutes encore Cavani, qui était le à l'époque le meilleur buteur de l'histoire du club, ça t'apporte encore quelque chose de différent, non?
Possiblement. Après, comme je te dis, chacun fait ses choix. Et il n'a pas eu une année facile.
Oui, Cavani, oui, c'était pas facile.
Cette année-là, et c'est pour ça que je pourrais jamais lui jeter la pierre. Je pourrais que le remercier pour ce qu'il a fait pour le club. Maintenant, si au fond de lui, il ressentait pas cette flamme-là, et on sait à quel point c'est un joueur émotionnel, je pense que c'était mieux de ne pas le faire puisqu'il fallait être transporté en fait pour un tournoi comme ça. Donc il a fait son choix. Est-ce que je suis d'accord avec ce choix? Peut-être pas. Est-ce que je le respecte? Forcément, je le respecterai toujours. Mais là, c'est plutôt l'état d'esprit qui prônait. Et donc si quelqu'un n'avait pas le sentiment de vouloir tout donner pour le Final 8, c'était mieux qu'il ait l'honnêteté de se mettre à côté.
Abdou, il y a Eladji Diouf qui a dit dernièrement que t'as entendu, tu sais ce que je veux te dire.
Évidemment.
Que si t'avais été international français, t'aurais été beaucoup plus respecté au Paris Saint-Germain qu'en étant international sénégalais. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est peut-être vrai. Maintenant, que le club de la capitale d'un pays traite de la meilleure des manières les joueurs qui vont représenter ce pays-là, c'est pas quelque chose qui me surprend non plus. Moi, j'ai évolué en Allemagne. Les joueurs allemands, ils sont très très respectés, ils sont mis en avant, ils sont pour pas dire protégés, mais presque. Donc c'est pas quelque chose qui me surprend et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai compté dans ma carrière. Moi, mon but, c'était d'atteindre le plus haut niveau. La France est mon pays, le Sénégal est aussi mon pays et Dieu merci, j'ai pu gagner presque tous les trophées. Il me manquait cette Ligue des Champions dans mes deux pays, puisque j'ai gagné le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue plusieurs fois même. Et j'ai gagné la CAN. Donc je suis plutôt reconnaissant vis-à-vis du parcours que j'ai eu.
Oui, et puis c'est pas fini en plus, Abdou, parce que t'as que 27 ans.
Eh oui.
Même si t'es parti, je sais que t'es parti pour le projet sportif là-bas au Qatar, mais peut-être que tu vas revenir en Europe.
On s'éclate sur le terrain.
Mais tout est possible. Abdou Diallo qui est en direct avec nous, ancien joueur du Paris Saint-Germain, international sénégalais. Moi, j'ai une question pour toi, Abdou, tout de même, parce que t'étais au PSG jusqu'à l'an dernier. Tu as donc vu ce qui est en train de se passer et donc cette formidable saison pour les Parisiens. Tu vois tout ce qui se passe avec un regard extérieur, notamment la gestion de Luis Enrique. Il y a moins de statut qu'auparavant. Toi, tu as connu la saison avec des attaquants qui ne sortaient jamais, des égos à gérer. Quand tu vois tout ce qui se passe, quel est ton regard à toi qui a connu ça de l'intérieur sur le terrain, comme ça, le fait que chaque joueur peut démarrer sur le banc et même ne pas jouer du tout certaines rencontres?
Ça me surprend pas parce que en début de saison j'étais là, donc j'ai vu déjà les prémices de ça. Par contre, avant l'arrivée de Luis Enrique, j'imaginais pas le PSG prendre cette tournure là.
Ouais.
Pourquoi? Parce que je considérais que limite ce côté un peu, bah, beaucoup de gens disent bling bling,
ouais,
qu'on reproche au PSG. Bah, finalement, ça fait partie de la culture du club un peu.
Ouais, c'est vrai et toutes les générations. Hein.
Mais est-ce que c'est ça, c'est une bonne chose du coup?
Ben, il n'y a pas bon ou mauvais. Si c'est la culture du club, tu vois, c'est quelque chose, tu peux pas l'enlever, ça fait partie de l'ADN. Finalement, il s'avère que Luis Enrique arrive à une très, très forte personnalité, impulse quelque chose, notamment avec le directeur sportif Luis Campos, que je salue. C'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat pour
l'année. Bah ouais, donc, ouais.
Donc je le salue et je connais le personnage. Et ils ont fait ce que je pensais pas pouvoir être possible. Au PSG, donc chapeau à eux. Maintenant, encore une fois, il reste 3 matchs.
Et ouais.
3 matchs, et je dis bien 3 matchs parce qu'il faut gagner la finale, il faut pas juste la jouer, y participer. Et j'espère qu'ils le feront et je serai comme
Abdou. Abdou, t'as joué dans les deux clubs, t'as joué à Dortmund, t'as joué au Paris Saint-Germain, ouais. Donc on vient d'en parler. Est-ce que tu as un prono sur cette finale, sur cette demi-finale?
Tu sais, j'ai joué avec beaucoup de joueurs talentueux. Mais moi, j'aime les joueurs frissons. Il y a deux de mes chouchous qui vont jouer, qui vont s'affronter même. C'est Ousmane et Sancho. Et mon cœur balance. Mais je pense que le PSG va avoir un avantage. Tout simplement par rapport à la mentalité. Le PSG doit gagner. Le Borussia Dortmund aimerait gagner. Donc, dans les moments clés, je pense que ça fait la différence.
Ça peut faire à 10 fois.
Ouais. Et puis, il y a un passif avec Dortmund. On parlait du Final 8, mais on se qualifie pour le Final 8 contre Dortmund.
C'est vrai.
Dans des circonstances incroyables. Donc, il y a un passif.
De Neymar.
Ouais, et franchement, je pense que le
poids de l'histoire, après, Kimpembe, etc. Ouais, parvis,
la communion.
Fou. Ouais, bien sûr.
La communion. C'était incroyable.
Merci à vous. Écoute, Abdou, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à l'émission. C'était top. Et ben, moi, je te souhaite le meilleur. En tout cas, t'es brillant. On n'est pas déçus. Donc, tu reviens quand tu veux dans l'émission pour parler du football. Et puis, je te souhaite.
Si le projet sportif te laisse du temps, du coup.
Je te souhaite le meilleur, Abdou.
Merci beaucoup. Prends et Jérôme, on va le faire cette année, on va le faire.
Ah, on espère, on est là, on va y aller, on va y aller à Wembley.
C'est ça, c'est tout
et,
ce qu'on veut.
Et surtout, Abdou, embrasse Marco, hein. Voilà.
Ouais, ça sera fait.
Allez, t'embrasse.
Salut, bye. Abdou.
Allez, Zélo, ciao, ciao, les gars.
En direct avec nous. 19h48, vous écoutez RMC Rotten sans flamme, Manu Petit, Jérôme Rotten. C'est le grand moment, Jérôme, le moment du gagnant, ou plutôt de la gagnante du jeu. C'est oh là Patricia là. Qui va tenter
Patricia,
sa chance avec nous.
Elle est là.
Elle est en direct. Salut, Patricia.
Salut, Patricia.
Bonjour.
C'est
ça
le
va,
jeu,
Pat
donc des tickets RMC.
Oui.
Bon, alors, écoute.
Tu donnes les tickets qui restent.
Les tickets.
Jérôme,
les tickets il en reste plus beaucoup. Mais il y a les grosses sommes encore, Patricia.
Ah oui.
Il y a alors le ticket numéro 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13.
Qu'est-ce que
Et
tu choisis
le 12.
Ah. 13. Hein.
Ah,
le 12.
Ah. Jérôme, gratte le 12.
Alors ah merde, il faut le retirer. Non, il faut pas le retirer.
Mais non, faut que tu grattes.
Bah oui.
Avec ton ongle.
Patricia.
Oui.
J'ai la main du bonheur.
Non.
Tu sais quoi?
C'est pas vrai.
Patricia.
Oui.
Tu as pas gagné 1 euro, tu as pas gagné 13 euros, tu as pas gagné 130 euros, tu as pas gagné 1300 euros. Tu as gagné 13 000 euros, Patricia. 13 000 euros pour
Incroyable
toi. Incroyable. Mais oui.
Valise,
et casse. Patricia, et on dit merci qui, Patricia?
Incroyable.
Merci beaucoup, merci RMC.
Non, pas RMC. Merci Jérôme Rotten, Patricia. Je t'offre 13 000 euros. Eh oui,
j'y crois pas, là, c'est incroyable.
Ah, c'est dingue.
Ah, félicitations, 13 000 euros remportés. On vous l'a dit que c'était un jeu fantastique.
C'est le salaire Manu par semaine.
Par émission. Patricia remporte.
Patricia, bravo, 13 000 euros.
Merci beaucoup.
On est ravis et continue de nous écouter. T'as vu, je t'ai porté chance.
Ça porte chance.
Voilà. Oui, bah, merci beaucoup à tout le monde.
Ah, on te sent ému.
Bravo, Patricia. En tout cas, on t'embrasse et profite bien des 13 000 euros.
Merci.
Bah, félicitations.
Bravo,
Patricia. Et continuez de jouer parce qu'on continue de gratter les tickets dans l'after.
J'avais le génie, Manu. J'avais le génie dans le pied gauche. Je l'ai dans la main gauche maintenant.
Exceptionnel.
Oh là là, c'est dingue.
Allez, on se remet de nos émotions. On revient dans un instant pour Rotten contre le reste du monde.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h51 sur RMC, on se remet de nos émotions. 13 000 euros pour Patricia, c'est fantastique. On est avec Manu Petit, on est avec Benoît Boutron. Nicolas Villas va nous rejoindre dans un instant. Il est là. Salut Nico.
Ça va ?
Salut Nico.
À 13 000.
13 000 balles.
Allez, on y va, c'est le quiz.
Allez, on y va.
Ça joue, mais
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
Julien Cazard est là, il est présent, il s'est régalé avec Abdou Diallo, on vous conseille de l'écouter en podcast. On va jouer ce soir avec Clément et Christian, salut à vous deux. Ils sont là, les deux, salut Clément, salut Christian, vous nous entendez?
Ouais, très bien, ouais.
Parfait.
Très bien.
Salut les gars.
Je rappelle le cadeau, une semaine de vacances à la mer, la montagne ou la campagne grâce à la Grange Vacances. Clément, tu veux jouer avec Jérôme ou le reste du monde?
Avec Jérôme.
Clément avec Jérôme et Christian avec Manu Petit.
Grange à la campagne, non?
Ok.
Excellent, excellent,
excellent.
On peut plus. Question flash pour commencer. Qui qu'a dit ? C'est là qu'il faut être bon. Hein. On veut que Franck Hez reste ici.
Le président de Lens.
Non.
Faut dire le nom.
Samba, Brice Samba.
Brice Samba, oui. Brice Samba, bonne réponse.
Oula.
Qui c'est qui a répondu ?
Il y a un slow motion.
C'est moi, Nico.
C'est Nico. Qui a répondu ?
Ouais, c'est Nico. Écoute Julien, on va te retrouver dans un instant. Ça fait 1-0 pour le reste
du monde. Vous
m'entendez ?
Ouais, ouais.
Oula.
Oh là là.
Sors du bar.
Écoute, on te reprend dans un instant. Premier point pour le reste du monde, pour Christian et Nico Villas qui a trouvé Brice Samba. Ça n'a rien de dire le président de Lens, faut que tu donnes son nom, Jérôme.
Ouais, ouais, si tu veux, je fais la deuxième question. Je peux faire la deuxième question.
Si tu fais la question et que tu réponds, t'as des chances de gagner, en tout cas. Julia Cazard qui va arriver dans un instant. Clément et Christian qui jouent avec nous. Ce soir, c'est l'Afterlife avec Nico, avec Oussem Saïef. Montpellier, non, on l'a vendu.
Tu sais que j'attends ça depuis ce matin.
Et tu m'as pas donné le bilan du quiz d'ailleurs. C'est quoi le bilan du quiz?
J'ai perdu deux fois.
Ah.
Et donc j'ai gagné deux fois.
Donc on joue la victoire de la
match nul alors. Mmh.
Ok.
Ouais, mais bon, les deux défaites, c'est quand même deux escroqueries. Hein.
Ah, d'accord.
Non, j'aime. En fait, je l'explique à Manu, mais il veut pas l'entendre. J'aime pas gagner à quelque chose en trichant.
Ah,
c'est pas le même.
J'ai les images.
On
a les images.
J'ai éduqué mon fils comme ça et je supporterai pas qu'il triche.
Ment comme un arnaqueur dedans, toi.
Et rassurez-moi, Julien Cazard, il n'est pas payé s'il ne fait pas le quiz jusqu'au bout.
Julien Cazard, donc pour tout vous dire, est en Belgique.
Ouais.
Donc ça ne capte pas.
Ah, ok.
Voilà. Pour des raisons fiscales.
Parce que l'appeler Julien Hazard.
Donc là on n'est pas bien. Donc Nico, tu nous disais comment t'allais t'en sortir.
Ouais,
donc le match Montpellier-Nantes.
Oui, oui.
Bon
courage, c'est ça.
Tu vas tenir ou quoi, une heure et demie?
Oui, oui, on est là, on va faire un avant-match et tout, attention.
Il y a un RMC quand même.
Ça sera avec qui?
Avec Oussem Le Saïef. Et avec Roland Courbis.
Non, mais
et après beau, Lionel Charbonnier va bien.
Vous savez qu'on peut avoir un quiz avec une victoire 1-0 du reste du monde.
Je pense que ce
serait bon. Sur une question flash.
D'ailleurs,
tu gagnes une semaine de vacances sur une question flash.
Ouais.
Non, à la campagne, avec la grange.
La campagne, la mer ou la montagne, c'est comme on veut.
Ah non, la campagne. Ah,
exactement. Et d'ailleurs, c'est Christian qui a remporté ce point. Moi, ça va. Sinon, je vous fais le quiz. Sinon, je trouve des questions.
Bah oui, vas-y, trouve des questions. Bah oui.
Bah écoute, je vais trouver des questions. Alors, avec Nico à côté de moi, comme ça, ça va être.
Nico. Bah tu veux que j'aille où? T'es mignon, en fait.
Nico, va à côté de Jérôme.
Ah non, non,
allez, va à côté de Jérôme.
Ok, vas-y, je vais à côté de Jérôme.
Allez, voilà.
Allez, comme ça, nous, on va faire le quiz. On va le.
Voilà.
Donc fais la première question que je t'ai dit là.
Ça y est, on a gagné déjà.
J'ai une question pour vous.
Bah pourquoi?
On va faire un autre qui a dit, tiens, pour commencer, le temps que je me mette dedans. On a donc Clément est face à Christian, Clément avec Jérôme, Christian avec le reste du monde. Qui a dit aujourd'hui, je félicite déjà le PSG, qui peut dire que ce n'est pas un beau champion de France?
Éric Roy.
Eric Roy.
Ah mais non, 2-0. En fait, c'est dans ton
écouteur de presse, en fait.
Éric Roy.
Ouais, mais bon,
est-ce que tu as des questions sur le sport plutôt que sur le journalisme?
Ouais, c'est une question de sport.
Ah bon. Croix, il fait quoi?
Je sais pas, t'as dû éplucher toutes les revues de presse aujourd'hui.
C'est mon travail, voilà, monsieur, excusez-moi, voilà. J'arrive. Hein, c'est
bah justement, non, mais.
Vas-y, alors.
Est-ce qu'on épluche encore les coupures de presse? ça se fait encore.
Tu peux te les mettre, t'es. Ah,
je t'aime beaucoup, Manu, mais c'est un peu une phrase de ringard. Éplucher les coupures de presse, qui fait ça encore aujourd'hui?
Allez, envoie.
Ah, attends, que me dit Antoine Varnier, notre arbitre? Je sais pas, je l'entends pas. Écoute, on va trouver une autre question.
Allô.
Il est 2-0, hein, Julien. Hein.
Allez, on a
non, c'est pas vrai. Qui a marqué?
Non, on a du.
Le deuxième,
la première,
ça
marchait pas.
Allez,
1-0,
Julien.
1-0.
Non, on garde.
Allez, on garde
1-0. 2-0. Qui est cultivé? On va perdre d'autres gens, là. Ça va pas être technique.
Là, il n'y a plus personne.
C'est nous qui l'ont pas capté.
Quelle était la pièce de Molière préférée de Johan Gourcuff?
Le malade imaginaire.
Oui, bien joué. Merci. Manu Petit.
Je crois que c'est Nico. Ça fait 2-0.
Attention, qui kawège ici? Celui-là, il est technique.
Ah, vas-y.
Valence, Besiktas, Lyon, Aston Villa.
Carou.
John Carou. Bravo. Ouh, ah oui.
C'était deux
autant,
points,
autant sur Molière,
non.
Il est moins bon, mais.
C'est pas de points, là.
Non, moi, c'est un point.
C'est un geek, point. Ah, c'est un point, d'accord.
Bon, allez, foot, hein.
C'est foot, hein. Moi, c'est pareil. Foot.
Bonne oreille.
Quoi qu'est kiff-kiff. Wiltord, Darcheville, Bruno Chéroux. Je vais vous aider. Ils ont trois clubs en commun.
Ils ont joué à Liverpool, Marseille et Bordeaux.
Non.
Rennes, Bordeaux et Liverpool.
Non.
C'est quoi?
Il y en a deux.
Redis les joueurs.
Darcheville, Wiltord, Bruno Chéroux.
Bah, ah non, c'est pas Rennes.
En tout cas, il y en avait deux de bons qui ont été dit.
Bah, Rennes, Bordeaux.
Oui.
Rennes, Lyon.
Non.
Lorient.
C'est un club qui est breton sans être breton.
Nantes.
Bonne réponse, Nantes.
Oh là là.
3-1. Comment je peux rater ça?
3-1, le chrono est quasiment fini. Qu'est-ce qu'on fait, Julien?
J'ai une question à 3 points.
Allez, bien sûr.
Eh bien, c'est balle de match, alors.
Évidemment.
Ça va jouer
balle de match.
Allez, Manu.
On va. Coupe du Monde 2010.
Oh là là.
Donnez-moi un des meilleurs passeurs de cette Coupe du Monde.
Schneider.
Non.
Robben.
Non.
Iniesta, Xavi.
Iniesta.
Non.
Müller.
Müller, yeah. Bonne réponse de Jérôme Bretagne.
Mais quelle victoire incroyable. Et quel quiz d'anthologie. Alors on s'est régalé vraiment. Et bravo. Bravo à Clément.
Qui
reprend ta semaine de vacances. Félicitations à Christian d'avoir joué avec nous.
Victoire de Jérôme contre Bretagne. Le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne. Trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances.
Bravo Jérôme, t'as réussi à te montrer décisif. T'as été bon sur les 13 000 euros et sur le quiz.
J'ai fait une magnifique émission. Merci aussi Benoît. T'as pas été mal. Manu un peu en dessous, mais bon, c'est normal. Il a fait deux fois dans la semaine. En tout cas, il va se reposer ce week-end. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Magnifique semaine la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que c'est une semaine Ligue des Champions, Europa League. On va se régaler. Il y aura plein de surprises à partir de 18h dans Rotten sans flamme. Et si on vous manque ce week-end, et on va vous manquer, allez-y, le podcast est disponible. Bisous à tous. À lundi.
RMC
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.